Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je sois en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Voilà, il est 19h passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios, comme tous les jours de la semaine. C'est un Canu Info, et comme nous sommes le jeudi, c'est l'équipe du jeudi, avec bien évidemment dans les studios magnifiques, rutilants de la plus rebelle des radios, il y a Delphine.
Bonsoir à tous et à toutes, et ce soir je dis bonsoir, je m'excuse, il paraît que la semaine dernière je n'ai pas dit bonsoir.
Eh ben voilà, c'est fait, et nous allons commencer donc par parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine. Alors si vous avez fait un petit peu attention, on a l'impression que l'inégalité des êtres humains a été une nouvelle fois, l'inégalité entre, on va dire même, entre les êtres humains a été une nouvelle fois renforcée, mise en avant, que ce soit du côté des politiques, avec quelques nouvelles lois bien iniques, du côté judiciaire, où vous avez pu entendre qu'un chauffard tueur de policiers a pris 12 ans de prison, là où le gendarme tueur de Rémi Fraisse a été dédouané par le défenseur des droits et lui, il est toujours libre. Cette inégalité entre les êtres humains a d'ailleurs été aussi mise en avant et validée par le monde médiatique. Pour l'exemple, je citerai cet avion qui s'est écrasé en Amérique du Sud et qui a entraîné une série de flashs d'informations, d'informations de toutes parts, d'hommages, de minutes de silence. Seulement pour les footballeurs présents dans l'avion, les autres personnes n'ont eu droit, eux, qu'à presque rien, rappelant que le footballeur a plus de valeur que l'être humain non footballeur. Et pourtant, un artiste bien plus important que tous les footballeurs de la planète réunis est mort aujourd'hui, Ousmane Sow, un sculpteur émérite nous venant d'Afrique. Mais malheureusement, c'était un piètre footballeur, donc je pense qu'il n'aura pas droit, lui, à sa minute de silence lors des prochains rendez-vous culturels ou sportifs. Donc voilà, bon, bien évidemment, nous n'oublierons pas les milliers de travailleurs tués aujourd'hui dans le monde par leur travail à cause de leur patron et dont tout le monde se fout éperdument. Bon, dans l'actualité du jour et de la semaine, on notera aussi quand même que les cathos et autres religieux sont sur le pont. Ainsi, aujourd'hui, notamment, le délit d'entrave à l'IVG qui était discuté à l'Assemblée nationale a été attaqué de toutes parts par ces religieux et leurs élus, hein, notamment du côté des Républicains. De même, en cette journée mondiale du sida, on notera que les seules solutions prônées par les ménards, cathos et autres fachos religieux sont l'abstinence ou la fidélité, laissant ainsi la maladie se répandre de plus belle à l'image de la situation en Russie ou en Afrique, où effectivement la seule mesure proclamée par les États est la fidélité ou l'abstinence. Et les conséquences en sont une augmentation du nombre de malades et de personnes contaminées. Et enfin, vous avez pu entendre aujourd'hui et hier la manif pour tous, les chrétiens évangélistes, le parti chrétien démocrate de M. Poisson et d'autres actionnaires se liguer contre le film d'animation Sausage Party. Un film d'animation pour adultes, c'est très très rare, hein. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de film d'animation pour adultes du genre de ceux qu'on avait, les Pichats, hein, qu'on avait dans les années 80, du genre Metal Hurlant, du genre de choses comme ça. Bon, ça les énerve, et vraisemblablement, quand on parle de sexe même avec symbolisé par des saucisses, ça les énerve. Bien évidemment, la réaction religieuse n'est pas la seule à progresser et à bousiller nos vies, puisque la casse sociale mise en place par les socialistes au pouvoir continue elle aussi. Ainsi, un des plus importants décrets d'application de la loi travail, la loi El Khomri, sur la liste des motifs autorisant les licenciements économiques a été publié. Bref, à partir d'aujourd'hui, jeudi 1er décembre 2016, tous les employeurs peuvent licencier un, plusieurs ou l'ensemble de leurs salariés pour motifs économiques dès lors que leur entreprise est confrontée à, je cite, une baisse des commandes, une baisse du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, une cessation d'activité, bref, presque tout. Mais même si cela reste encadré donc par la loi, la casse sociale est très 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 importante. Bon, bah après tout ça, que nous reste-t-il ? Bah peut-être Mélenchon, non ? Ah non, pas Mélenchon. Lui qui a obtenu le soutien des communistes, hein, pour la campagne présidentielle, mais qui reste un personnage quand même hautement méprisant et ô combien populiste. Pour preuve, hein, son attitude hypocrite face à Cohn-Bendit qu'il tutoyait et qui a refusé son tutoiement en disant « mais non, on se vous voit » alors qu'il y a des heures et des heures, des centaines, des milliers d'heures de témoignages audiovisuels, audio, radio, montrant que Cohn-Bendit et Mélenchon se sont toujours tutoyés, mais comme quoi, hein, Mélenchon est devenu hautain, même avec ses camarades politiques. Et alors, on ne parlera pas de son attitude immonde, quand il a dit, je cite, « François Fillon, dont je veux saluer ce soir le succès parmi les siens. » Vous vous sentez, vous, auditeurs, auditrices, saluer le succès de vos ennemis ? Dire merci à Adolf Hitler d'avoir gagné les élections ? Merci à Marine Le Pen d'avoir gagné, d'être à la tête du Front National. Non, non, on ne remercie pas ses ennemis, on les combat. Et ben, c'est vraisemblablement pas le cas de Mélenchon. Bref, même s'il s'est converti récemment à l'écologie et qu'il a quand même le programme le plus à gauche des candidats en cette fin d'année 2016, ça reste un personnage politique, c'est-à-dire juste un professionnel de la politique, pas du tout quelqu'un du peuple, pas du tout représentatif du peuple, pas du tout représentatif des travailleurs, des chômeurs, des hommes, des femmes qu'on peut croiser tous les jours, nous qui chômons ou travaillons. Enfin, bref, en guise de dessert cette semaine, je vous propose de vomir sur la proposition de certains socialistes, ils ne sont pas les seuls, qui veulent rétablir le système, le service militaire obligatoire. C'est revenu encore aujourd'hui. Nous vomirons dessus à tous ceux qui adorent l'armée, qui adorent la guerre. Nous qui avons lutté dans les années 80 contre ce service militaire. Nous qui avons refusé de le faire, ce service militaire, avec moult raisons, soit fausses, en général fausses, qu'elles soient médicales ou vraies, c'est-à-dire en faisant la version officielle du service non militaire qui était proposé à l'époque. Voilà, on leur vomit dessus à tous et à toutes, ceux qui dégradent notre manière de vivre, notre pensée, notre vie. Nous poursuivrons quand même ce Canu Info malgré tout ça. Et nous parlerons effectivement d'histoire, nous parlerons un peu d'Israël et de Palestine, beaucoup de religion, beaucoup de François Fillon, beaucoup, un petit peu de BD et de BD locale. Nous reviendrons sur Van Gogh qui est toujours mort, nous vous confirmons. Et nous parlerons de nucléaire, mais nous allons commencer par parler un petit peu d'histoire et oui, de la grande histoire.
Avant, juste pour dire que le film Sausage, on l'a pas vu, hein, mais que malheureusement, Laurent, tu vas être obligé d'aller au cinéma puisque tu ne pourras pas le télécharger sur Zone Téléchargement, site qui a été fermé lundi et qui doit manquer, il faut le dire, à bien bien des gens. Hein, et voilà, c'était un petit peu aussi l'affaire de la semaine. Alors oui, on va parler de cette petite histoire qui a fait la grande histoire en ce 1er décembre 2016. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé le 1er décembre 1955. Le 1er décembre 1955, Rosa Louise McCauley Parks prend le bus à Montgomery en Alabama. Vous connaissez tous et toutes Rosa Parks, cette femme noire qui a lutté contre ce racisme, cette ségrégation aux États-Unis d'Amérique. Et ben, ce 1er décembre 1955, Rosa Parks monte dans un bus et s'assoit. Et elle va refuser sa place à un passager blanc. Il faut savoir que dans les bus de Montgomery, les 4 premiers rangs sont réservés aux blancs. Les noirs doivent s'asseoir à l'arrière. Alors il y a une zone centrale qui peut être utilisée par les noirs tant qu'il n'y a pas de blancs. Hein, globalement, c'est un peu ça l'idée. Donc à ce moment-là, les noirs doivent céder leur place, aller au fond ou soit carrément quitter le bus si jamais il n'y a plus de place. C'est comme ça que ça se passe. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks donc refuse de laisser sa place. Elle est arrêtée. Le 5 décembre, elle est jugée et inculpée de désordre public ainsi que de violation des lois locales. Elle écope d'une amende et ses avocats décident de faire appel. Et ce 5 décembre, ça marque aussi la mise en lumière, on va dire ça comme ça, d'un jeune pasteur noir qui est encore pas très très connu. Il s'appelle Martin Luther King et Martin Luther King décide de lancer une campagne de boycott contre la compagnie de bus en réaction, alors il n'est pas tout seul, hein, précisons-le, en réaction à cette arrestation et condamnation. Alors, il faut savoir qu'en 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles. Et voilà comment un geste de résistante de la petite histoire crée la grande histoire. Rosa Parks est devenue une figure emblématique de la loi contre la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique et bien au-delà. Et c'est vrai que c'est aussi toute une histoire, parce que ce boycott des bus de Montgomery a débuté le 5 décembre 1955. Il s'est terminé le 21 décembre 1956. La nuit qui a suivi l'arrestation de Rosa Parks, les dirigeants de la communauté noire, ils sont 50, ont décidé de fonder le Montgomery Improvement Association. Le mouvement est basé sur la non-violence et la désobéissance civile. Martin Luther King en prend la tête, il devient président. Le mouvement a 3 revendications: que les blancs et les noirs puissent s'asseoir, ils veulent dans l'autobus, que les chauffeurs soient plus courtois à l'égard de toutes les personnes et que des chauffeurs noirs soient engagés. Il y a la veille du procès de Rosa Parks, il y a des tracts qui sont distribués et le boycott est lancé. Il va durer un certain nombre de jours, hein, quand même, 381 si je ne me trompe pas. Il faut savoir que le 13 juin 1956, je vous rappelle que donc les avocats de Rosa Parks avaient fait appel et tout ça va les emmener bien bien loin, puisque le 13 juin 1956, un comité de 3 juges de la Cour fédérale de district établirent que les lois étaient inconstitutionnelles, hein, ces lois qui empêchaient les noirs de s'asseoir où ils voulaient dans les bus. Ce jugement est basé sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. À ce moment-là, la ville de Montgomery et l'État de l'Alabama font appel et tout ça va devant la Cour suprême. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême confirme le jugement du 13 juin 1956. Le 17 décembre, la Cour suprême refuse la demande de révision du jugement faite par la ville de Montgomery et par l'État de l'Alabama. Et le 20 décembre, la Cour suprême exige de l'Alabama que cesse la ségrégation dans les bus. Le boycott cesse à ce moment-là, le 21 décembre. Il faut savoir que ce mouvement n'est pas le seul, puisque s'il a permis effectivement de casser cette ségrégation dans les bus, il restait encore de mettre en pratique cette liberté de s'asseoir où on veut dans les bus, dans les lignes inter-État. Et là, c'est dans les années 60, un autre mouvement qui va prendre la suite. C'est le Freedom Ride. C'est un groupe de militants des droits civiques, des noirs, des blancs, des hommes et des femmes. Au début, ils sont une petite quinzaine, hein. Ils sont pas très nombreux, mais le groupe va vite s'élargir. C'est les voyages de la liberté. Ils veulent tester, en fait, cette ségrégation dans ces bus inter-États. Lorsque les bus ont traversé les États du Sud, ils ont été attaqués. Plusieurs ont été brûlés. Les militants ont été battus par le Ku Klux Klan, hein, qui était lui-même protégé par la police. Hein, tout ça a été bien évidemment bien fait. Il faudra attendre l'intervention de Robert Kennedy, qui est alors procureur général des États-Unis, pour que les États ségrégationnistes appliquent la loi fédérale. Et puis il faudra attendre ensuite le Civil Rights Act en 1964 pour que toute forme de ségrégation dans les lieux publics cesse. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Rosa Parks, mais moi j'ai aussi envie de vous citer trois autres femmes. On pourrait parler de Claudette Colvin, 15 ans, imaginez, 15 ans, qui le 2 mars 1955, avant Rosa Parks, refuse de laisser son siège à un blanc dans un bus. Elle est expulsée du bus, elle est giflée, tabassée. Elle-même, à l'époque, fait partie hein, d'un mouvement de jeunes militants. On peut parler aussi de Marie-Louise Smith, qui en octobre, le 21 octobre 1955, elle avait 18 ans, et elle aussi refuse de céder son siège. Et puis on pourrait parler de Irène Morgan, qui en juillet 1944, hein, 11 ans avant, refuse de laisser son siège à un couple de blancs dans un bus à Baltimore. Pour Claudette Colvin et Marie-Louise Smith, ça s'est passé à Montgomery, hein, dans la même ville que Rosa Parks. Toutes ces femmes ont participé à la grande histoire par leurs gestes de résistance. On parle souvent de Rosa Parks, mais il faut savoir ici en France hein, que Marie-Louise Smith, par exemple, a été une grande activiste. Irène Morgan a été reconnue aussi pour son militantisme. Voilà, c'est aussi important de se souvenir de cette petite histoire que chacun et chacune, on peut résister et que c'est par nos gestes eh ben, qu'on change la grande histoire. Une histoire de femme, encore une fois.
Ouais. Eh ben, on va revenir sur l'actualité israélo-palestinienne et on va reparler de ségrégation juste après, de ségrégation qui se met en place aussi pour un régime proche de l'apartheid, on pourrait dire ça de manière un peu caricaturale, certes, mais pas si loin de la réalité. On va commencer par le Fatah, donc le parti de Mahmoud Abbas, parti politique historiquement le plus puissant hein, de la Cisjordanie, enfin de la Palestine, on va dire, cette semaine a fait son 7e congrès. Ça faisait un moment, hein, ça faisait depuis 2009 qu'il n'y avait pas eu de congrès, ni d'élection au sein du Fatah. Donc c'était le cas cette semaine. Alors on a l'info d'après Wafa, hein, qui est l'agence de presse officielle de l'autorité palestinienne, qui est présidée par Mahmoud Abbas, et on apprend que les participants auraient élu Mahmoud Abbas à l'unanimité comme président du Fatah pendant la journée d'ouverture. La séance d'ouverture, ce qui est assez surprenant, tout le monde s'attendait quand même à ce qu'il y ait enfin des discussions sur la suite, qui va prendre la place de Mahmoud Abbas, hein. Il est quand même ultra critiqué, il faut dire que bon, ces dernières années, depuis qu'il est là en fait, il a jamais eu le charisme que pouvait avoir un vrai militant historique comme l'était son prédécesseur, et puis voilà, il a beaucoup coopéré, notamment il a fait coopérer les services de sécurité palestiniens avec les services de sécurité israéliens, tout ça pour gagner rien pour les Palestiniens, donc il est quand même pas mal critiqué, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il perd les élections face au Hamas, entre autres. Enfin, bon, bref, il n'y a pas de poste Abbas pour l'instant au sein du Fatah, puisqu'ils ont gardé ce personnage. Alors, ils sont contents parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, ils avaient invité des gens de la. Alors, non seulement des militants du Fatah, mais de toute la région, c'est-à-dire de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Alors, il faut savoir qu'Israël a quand même tout fait pour pas que ça se passe bien. Hein, il y a au moins 75 représentants du Fatah de la bande de Gaza qui ont été bloqués. Et puis Israël a aussi tout fait pour que les journalistes n'aillent pas voir ce qui se passe. Donc il y a eu des blocages sur les différents checkpoints pour empêcher les journalistes d'y aller. Bon bref, à la fin, le discours de Abbas est un discours ultra consensuel, tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Hein, il avait invité des représentants du Hamas, du Djihad islamique et d'autres partis palestiniens à venir lors de ce 7e congrès du Fatah. Bon. C'est juste, ça montre juste la sclérose hein, de la politique palestinienne, cette caricature de congrès où dès l'ouverture on rechoisit Mahmoud Abbas sans qu'il y ait vraiment de discussion ni de remise en cause. Voilà, ça avance pas beaucoup hein, du côté palestinien. Alors par contre ailleurs ça bouge un petit peu. Alors dans le bon sens d'abord, avec quelque chose qui s'est passé à Trondheim. Trondheim c'est une ville de Norvège, une ville assez sympathique, assez jolie. Troisième ville de Norvège, ça ne veut pas dire grand chose que la Norvège, les grandes villes, il n'y en a pas beaucoup, c'est vite petit. Mais c'est quand même symboliquement important, puisqu'ils ont voté le boycott des produits et des services israéliens venant des colonies israéliennes. Donc ce vote a été proposé par un syndicat norvégien des employés municipaux et généraux. Bon, avec un but politique, hein, de protester contre l'occupation illégale, notamment de Jérusalem-Est et d'une partie de la Cisjordanie, par l'État israélien. Alors, bon, le vote est passé, hein, le Parti travailliste étant majoritaire, hein, il a approuvé ce vote. La droite norvégienne, elle, l'a condamné, accusant cette motion d'entraîner de la discrimination. Alors, c'est intéressant d'entendre toujours ça dans la bouche de la droite sur la situation israélo-palestinienne, parce qu'en fait, on crée de la discrimination, mais dans le bon sens, c'est-à-dire pour faire pression sur ceux qui ne respectent pas les lois internationales, ne respectent pas les peuples, et créent eux-mêmes des situations de discrimination. Donc oui, c'est discriminant de dire qu'on boycotte les entreprises qui collaborent. Mais ça fait partie du jeu, justement, c'est le but de discriminer pour faire qu'elles vendent moins et faire pression. A priori, ils ne comprennent pas la notion de boycott. Ou alors ils soutiennent ouvertement la politique israélienne de colonisation. C'est plutôt ça dont il est question, bien évidemment. Donc voilà, c'est une des nouvelles de la campagne BDS, qui est donc une campagne internationale de boycott des produits israéliens fabriqués dans les territoires occupés. Et puis la mauvaise nouvelle du jour, ça se passe dans les cars en Israël. Dans l'écart d'une région qui s'appelle Beersheba, hein, c'est tout au sud d'Israël. Alors il y a des nouvelles lignes de bus qui ont été mises en route, et il y avait des inscriptions électroniques et des annonces en langue arabe. Il faut savoir qu'en Israël, l'arabe est la deuxième langue officielle, hein, puisqu'ils ont quand même une bonne partie de la population qui est arabe et qui parle arabe, donc il y a deux langues officielles. Et la ville, les transports israéliens ont retiré les annonces en arabe. Alors, comment ça s'est passé? D'où ça sort? En fait, alors, la ville de Beersheba est quasi exclusivement juive aujourd'hui, hein, puisqu'ils ont viré en 48 tous les Palestiniens. Par contre, l'agglomération, elle, est mixte, puisque, grosso modo, il y a un gros tiers de citoyens qui parlent arabe, qui sont arabophones, on va dire. Donc, ces nouveaux bus mis en service par la société de transport Dan tenaient compte de cette réalité démographique et avaient introduit, comme dans beaucoup de lignes de bus, des annonces en arabe, en hébreu, et sur la tête du bus, là, le message électronique des destinations en arabe et en hébreu, comme ça se fait assez régulièrement en Israël. Et il y a eu une réaction, et c'est les réseaux sociaux qui ont amplifié, enfin qui ont servi d'amplificateur à tout ça. Il y a une campagne qui a été lancée qui s'appelait « Ensemble à Beersheba », et qui est, contrairement à ce que le mot laisse entendre, c'est « Ensemble sans les Arabes hein, », puisque ils ont balancé grosso modo des insultes, expliquant en fait très calmement au début que pour eux c'était une insulte à leurs yeux et à leurs oreilles de voir de l'arabe et d'entendre de l'arabe. C'est fort quand même d'entendre ça, alors qu'il y a un tiers des habitants de la région qui sont arabophones. Hein. Et donc ça a été amplifié et ça a été relayé du coup par le gouvernement local, qui a demandé au ministre des Transports de pouvoir interdire l'arabe dans les bus de cette région, et le ministre des Transports a autorisé l'interdiction de l'arabe dans les bus des transports, donc dans les bus de la ville et de la région de Beersheba. Donc voilà, le racisme progresse encore et toujours en Israël.
Alors écoute, tu veux poursuivre, on a un peu de Fillon, un peu de religion, un peu de BD, un peu de Van Gogh,
Je vais poursuivre sur la religion. Là,
parce Allez, enchaîne.
On est bien parti. Alors pas mal de petites infos sur la religion. La première, c'est une info locale, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir, ou vous savez peut-être pas encore, mais que grâce à votre argent, Gérard Collomb est allé au Vatican. Ça, c'est la classe. C'est juste la classe. Donc il n'était pas tout seul. Il a été accompagné de Wauquiez. Hein, bon, c'est pas surprenant.
Monsieur Wauquiez, s'il te plaît.
Non, c'est quand on respecte les gens, quand même, monsieur.
Nouveau vice-président, LR.
Ouais, c'est vrai. Ils l'ont pas viré, finalement.
Non, on avait espoir, mais même pas, quoi.
Voilà, et 250 élus de la région, grosso modo, se sont envolés, donc lundi dernier, pour le Vatican. Alors, c'est le cardinal Barbarin, vous savez, ce monsieur qui a pas mal caché les prêtres pédophiles, et qui n'a jamais été condamné pour ça, bien évidemment, maintenant, qui a organisé ce qu'il a appelé le jubilé de la miséricorde. C'est beau. Voilà. Alors c'est bon, c'est pas la première fois que Collomb et ses amis collaborent avec des forces obscurantistes ou religieuses. Hein, on se rappelle que chaque année, il va à la cérémonie du vœu des échevins, une tradition moyenâgeuse qui fait que officiellement, quand le maire est là, il place la ville sous la protection de la Vierge Marie. C'est quand même une honte pour un élu dit socialiste de la République française. Donc voilà, c'est pas la première fois que Colomb collabore avec ses forces, avec les sectes hein, de tout genre, les sectes de religion, c'est la même chose. Donc voilà. Alors ils ont été reçus personnellement mercredi par le pape, vous savez, le pape François. Donc il aura fait un grand discours sur les valeurs de la République, de la France, de la République française, et la nécessité, je cite, « dans un monde qui change, de retrouver du sens, le sens du politique ». Alors, je continue à le citer. « Dans un contexte international marqué par des frustrations et des peurs, intensifiées par les attentats et la violence aveugle qui ont si profondément meurtri votre pays, il est d'autant plus important de rechercher, de développer le sens du bien commun et de l'intérêt général. » Bon, un grand discours super consensuel du pape, pas de souci. Et le côté drôle quand même de l'affaire, parce qu'il faut qu'il y ait un côté drôle, c'est que Wauquiez a pris une claque dans la gueule. Alors il a pas, le pape l'a pas giflé, parce que ça aurait été encore plus drôle, mais il a fait une claque verbale, puisqu'il a dit « N'oubliez pas les migrants qui ont fui leur pays à cause de la guerre, de la misère et de la violence. Dans l'exercice de vos responsabilités, vous pourrez contribuer à l'édification d'une société plus juste et plus humaine, d'une société accueillante et fraternelle. » Quand on sait que Wauquiez et grosso modo la droite catholique lyonnaise s'opposent de partout où ils sont installés à l'arrivée de migrants. Ça nous fait quelque part plaisir que le pape lui ait mis une petite claque, même si, bon voilà, on vous rappelle quand même que ce voyage, notamment celui de Colomb, était payé par vous et vos impôts, puisqu'il s'est fait financer le voyage. Il a trouvé une excuse, il a dit « je vais rencontrer des acteurs économiques là-bas, au Vatican ». À part une banque qui détourne de l'argent, il n'y a rien d'autre au Vatican quand même, faut le dire. Mais bon, voilà, il a trouvé une excuse. Alors toujours sur la religion, un truc plus sérieux. Des chercheurs de l'université de l'Utah, donc c'est aux États-Unis d'Amérique, ils sont intéressés au fonctionnement du cerveau des personnes qui croient. Alors ils ont pris des vrais croyants, hein, pas des rigolos, ils ont pris 19 mormons. C'est le mormon, hein, c'est sa vie pour la religion. Et pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils avaient des sermons, ils ont scanné leur cerveau, vous savez, avec des appareils modernes, et où on voit les connexions à l'intérieur des neurones. On voit aussi la circulation sanguine, ce qui donne une image aussi de la connexion des neurones. Enfin, avec plein de matériel scientifique, ils se sont rendus compte que c'était une partie particulière du cerveau qui était très active quand il y avait des sermons, quand il y avait des choses liées à leur pratique spirituelle. C'est ce qu'ils appellent le noyau accumbens. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est une région du cerveau qui gère essentiellement le plaisir, hein, et notamment le plaisir lié à de la récompense. Quand on est content d'avoir fait quelque chose, c'est cette zone qui est très activée. Les chercheurs font donc apparaître qu'en fait, que quand les croyants font leurs sermons ou écoutent des sermons, ils ont une sorte de retour sur ce qu'ils font, et ils se sentent rassurés, heureux d'avoir ce retour-là. Donc voilà, bon, ça va pas beaucoup plus loin que ça, leur étude, pour l'instant, ça remet pas en cause l'idée de croire, mais ce qui est très très intéressant dans l'étude, c'est que ce noyau accumbens, il est essentiellement mis en œuvre pour les réflexes pavloviens. Vous savez, Pavlov, c'est ce scientifique qui avait démontré l'existence de réflexes. Donc lui, il l'avait fait sur le chien, hein, en nourrissant le chien et en ayant des... c'est un truc assez facile, hein, les réflexes pavloviens, soit des enfants. On peut le faire sur les enfants, il y a des études, hein, sur les enfants. On associe, par exemple, un son avec de la nourriture. On donne au chien de la nourriture avec ce son. Et le jour où on met le son, eh ben, il salive et il va manger, en fait. Ça devient un pur réflexe. Alors que normalement, le son n'est pas associé à la nourriture. Et ben, du coup, ce qu'il démontre, c'est qu'en fait, c'est de l'ordre du réflexe, pas de l'ordre de l'intelligence, hein, les réactions liées à la religion, c'est plutôt de l'ordre du réflexe. Voilà, pour les athées que nous sommes, ça nous fait plaisir, parce qu'on sentait bien que c'était plutôt quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, ça ne remet pas en cause les religions, la croyance et tout ça, hein, ça étudie juste les conséquences sur le cerveau, ça ne les rendra pas athées, ces gens-là, ou pas progressistes, il n'y a pas de raison là-dessus, mais c'est une étude scientifique, il y en a assez peu quand même sur ces choses-là. Sur la religion, j'ai encore trois petites infos. La Pologne. Et la Pologne, c'est quand même la classe internationale sur la religion, puisqu'on a l'impression aujourd'hui que la Pologne est retournée au Moyen-Âge. Et je vais vous le démontrer tout de suite, puisque Jésus-Christ a été nommé roi de Pologne lors d'une cérémonie dans l'église de la Grâce Divine à Cracovie le 19 novembre. Bon, on se dit, c'est une cérémonie religieuse, il décide que Jésus-Christ est le roi de Pologne. On rappelle, la Pologne, c'est une démocratie, hein. Il n'y a pas de roi normalement. Ils ont décidé que c'était le roi de la Pologne. Le problème, c'est que ça s'est déroulé en présence du président polonais, Andrzej Duda, qu'il est tout à fait d'accord avec ça. Alors il nous explique, c'est religieux, que cet acte n'est pas l'aboutissement, mais le début de l'intronisation de Jésus-Christ en Pologne. Alors pour eux, c'est pas fini. Alors bon, ils sont déjà bien atteints par la religion, ils pensent pouvoir faire mieux, ou pire, hein, suivant du côté où vous vous placez. Ils ont expliqué que c'était une reconnaissance nationale de la souveraineté de Jésus sur l'univers. Oui, c'est pas sur la Pologne, c'est sur l'univers. Donc voilà, c'est vraiment le Moyen-Âge en Pologne. Alors à Taïwan, c'est pas beaucoup mieux. À savoir que c'était le premier pays d'Asie qui tentait de légaliser le mariage homosexuel. Ben là, ils ont tout arrêté. Il faut dire qu'il y a eu des grosses manifs, le 13 et le 17 novembre dernier, emmenées par les organisations religieuses, notamment l'Alliance des groupes religieux de Taïwan, qui est portée par essentiellement par les chrétiens, qui ont mobilisé beaucoup de gens, plus de 20 000 personnes dans les rues. Et ben voilà. Du coup, pour l'instant, le Parlement recule et attend. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais pour l'instant, ils ont décidé d'arrêter de négocier ou de discuter du mariage homosexuel. C'est un peu l'équivalent des croyants réactionnaires de la Manif pour tous, sauf que là-bas, ils ont pour l'instant gagné et que chez nous, ils n'ont pas encore gagné. Il faudra que Fillon passe peut-être pour qu'ils gagnent. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour les homos taïwanais. Et puis, on va terminer avec l'État du Texas, qui est toujours un État très progressiste. Vous allez le voir. C'est au sujet de l'IVG, puisque l'État a décidé d'imposer des funérailles aux femmes qui avortent ou qui font une fausse couche, quel que soit l'état de l'embryon, c'est-à-dire enfin la date de l'embryon. C'est-à-dire que faire une fausse couche avec quelques centaines de cellules, ce qui arrive, si ça a lieu dans une clinique ou dans un hôpital, les femmes sont obligées de faire un enterrement. Alors l'idée de l'État, c'est de mettre la pression encore plus sur les femmes qui avorteraient. Alors même, une fausse couche, c'est pas un avortement, ça peut être accidentel, ça peut être médical, il peut y avoir des raisons de maladie. Ben non, ils arrivent même à culpabiliser les femmes malades qui perdent l'embryon qu'elles ont ou les quelques cellules du début, là, quand on n'en a pas encore beaucoup. C'est assez incroyable d'en arriver à ce point de réaction et d'attaque contre cette liberté qui pourrait être donnée aux femmes, qui peut être donnée aux femmes, mais peu seulement au Texas, du droit à l'avortement. Donc c'est une énorme régression, c'est une nouvelle mesure de plus régressive sur l'IVG. Donc là, c'est dans l'État du Texas, qui est un des États quand même les plus réactionnaires.
Alors, je vais enchaîner avec Monsieur Fillon. Je me suis intéressée à son programme concernant la culture. J'ai donc lu les 12 pages de son projet présidentiel sur la culture. Et c'est vrai qu'on peut se demander à quoi sert la culture. Ça pourrait être un bon sujet de philo, bac ou... je sais pas. En tout cas, Monsieur Fillon a tout plein d'idées. Alors, il pose la culture comme un élément... de la construction de l'identité comme une solution à la fracture sociale ou au problème de l'intégration, et il en fait même un outil contre le terrorisme. Alors en matière culturelle, le programme de Fillon ressemble à celui de Monsieur Fillon, c'est-à-dire des économies, du libéralisme, du nationalisme, mais au fond pas grand chose de nouveau. Alors pour le côté positif, parce que je suis quand même une fille sympa, on pourrait citer le fait que Monsieur Fillon souhaite conserver le prix unique du livre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il veut amener son soutien aux librairies indépendantes. Bon, comment ça? Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Il veut amener l'éducation artistique à l'école. Alors, c'est intéressant. Il nous explique que ça sera sans coût supplémentaire, avec une formation initiale pour les enseignants et avec des volontaires. Bon, enfin bon, à la base, ça part d'un bon principe. Et puis, il nous promet de sanctuariser, j'emploie le terme, je cite, le budget de la culture. Hein, c'est ces fameux 1% qu'ils ne veulent absolument... plus rien dire. Et donc globalement, à part le patrimoine, quasiment tous les crédits sont gelés ou réattribués. Alors je vais vous citer la toute première phrase, histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc ça, déjà, ce document s'appelle « Une politique culturelle forte et lisible pour préparer l'avenir ». Et la première phrase nous dit « La culture est le socle de notre identité et aussi de l'influence française dans le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, elle constitue l'ultime rempart contre la barbarie qui nous frappe, mais aussi contre la précarité de nos territoires les plus touchés par la crise. » Alors, direct, on va enchaîner donc avec un peu plus d'infos sur la fracture, la précarité, le chômage, l'immigration, la cohésion nationale. Globalement, la culture, c'est pas marrant avec François. Autant vous le dire tout de suite. Il va en profiter dans cette introduction pour nous parler des nouveaux arrivants et glisser ça en parallèle avec la langue française. Nous parler aussi de l'histoire qui est un moyen d'intégrer ces nouveaux arrivants. Et puis, il nous parle aussi beaucoup des jeunes. C'est un moyen, la culture, de lutter contre la barbarie, la précarité. Et il vise en particulier les jeunes. Sur cette introduction qui n'est quand même pas très très longue, j'en ai lu qu'un petit paragraphe. Malgré tout, il y a 3 fois le mot identité, 2 fois l'expression cohésion nationale, une expression qui revient dans d'autres parties de ces 12 pages. Alors, pour réduire la fracture culturelle, puisqu'il y a un gros problème avec la fracture culturelle en France, il va falloir agir. Donc, cette fracture culturelle menace la cohésion sociale. Et il nous explique dans l'un de ces paragraphes, j'ai perdu mon petit papier, excusez-moi, qu'il faut armer nos enfants, je le cite. Or, dans un monde qui change et évolue en permanence, chaque enfant doit être armé pour le comprendre, s'adapter et s'y intégrer. Je sais pas, vous voulez armer vos enfants, vous? En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. Il nous explique que globalement, la culture, c'est le ciment de la cohésion nationale. Il nous parle beaucoup de patrimoine dans ces 12 pages. Il nous explique qu'on appartient à une civilisation européenne. Nous avons aussi un patrimoine commun qui forge l'âme de l'Europe, je cite, et doit vibrer en nous. La philosophie antique, l'esprit des cathédrales, l'état de droit, la solidarité, le goût des arts et des sciences, la liberté de parler, de penser, de voter. C'est beau, hein? Ah, ça te laisse sans voix.
Je ne peux rien dire.
L'une de ces propositions, la première, c'était donc de remettre l'enseignement culturel artistique avec l'histoire générale. C'est toujours un petit peu dangereux de vouloir associer les deux d'une manière un peu synthétique et facile. Et puis, il va augmenter donc le budget du patrimoine, le passer de 326 millions d'euros en 2016 à 400 millions d'euros par an sur tout le quinquennat, soit au total 2 milliards d'euros. Bon, la gauche en ce moment, elle donne entre 340 et 360 millions par an, donc c'est un peu du kiff. Dans d'autres de ses priorités, donc son plan s'appelle Patrimoine pour tous, c'est assez clair il me semble. Il a des propositions pour aussi ouvrir davantage les musées qui devraient systématiquement avoir des actions dédiées au territoire, c'est-à-dire plus simplement avoir des établissements culturels comme les musées qui seraient aussi dédiés à la conservation, à la mise en valeur, mais forcément avoir du pédagogique, de l'action. C'est pas forcément en soi une mauvaise idée de remettre un musée sur son territoire, sauf que là on sent qu'il veut travailler quand même le contenu et l'histoire et la proposition qui pourrait être faite par exemple à des scolaires. Dans une de ses autres propositions, c'est la 7, il nous propose que ces établissements culturels voient leur heures d'ouverture, leurs horaires d'ouverture élargis. Alors il nous dit qu'il faut les moyens nécessaires, mais il nous explique pas lesquels. Et puis surtout, il veut faire appel aux bénévolats et aux services civiques culturels. Alors on lui rappellera que la plupart des festivals en France, et il y en a beaucoup, fonctionnent avec des bénévoles, parfois totalement, et surtout en milieu rural. Donc tout ça, c'est du blabla. Et puis on lui rappellera aussi que les emplois aidés, subventionnés, les stages et les services civiques sont légion dans le secteur associatif culturel et le secteur du spectacle. Donc bon, en fait, il met un peu, il nous a appris c'est quoi l'eau qui mouille. Il nous explique aussi que, par exemple, sur les subventions, les compagnies qui en toucheraient devraient un minimum de représentation. Alors, ce qu'il a l'air d'oublier un petit peu, c'est que pour avoir des représentations, il faut vendre son spectacle, il faut payer des artistes. Donc, c'est un raccourci un peu pratique de dire si on vous donne de la subvention, vous allez pouvoir prendre en charge totalement votre création et puis, vous allez pouvoir la montrer à tout plein de gens dans un discours toujours très pédagogique. La culture et le spectacle, c'est pas fait pour être que pédagogique. Ça peut l'être, mais pas forcément. De la même manière, ça peut être politique, mais pas forcément. Ça peut être aussi simplement de l'amusement et du plaisir. Alors, il a un gros paragraphe, c'est le numéro 2, sur soutenir la création française. Alors, sa proposition 10, il veut conserver cette exception culturelle. Ça, on n'en doutait pas moins, qu'il voulait mettre la France au cœur du monde. Ce qui est intéressant, c'est sa proposition, ce qui est la vraie proposition. proposition de soutien à la création française, puisque là, il nous parle de pérenniser la rémunération de la création à travers le système français du droit d'auteur. Et le premier point, c'est conforter la DOPI. Donc pour lui,
la répression, quoi.
Voilà. Donc pour lui,
donc on partage pas la culture, on la vend.
Ouais,
c'est, l'important, c'est que voilà, il y a toujours du business.
Au lieu de développer la création artistique, il nous propose en fait la DOPI. C'est quand même sympa, hein, comme aide. Et puis alors il nous fait le coup lui aussi dans sa proposition 13 de la pépinière d'artistes en région. Ah, alors ça, ils aiment bien tous et toutes, hein, nous faire leur pépinière d'artistes. Bon, il nous rappelle que juste que c'est les collectivités territoriales qui vont payer, mais en fait c'est son idée. Hein. Globalement, l'État va se désengager et c'est aux collectivités territoriales de sortir les sous. On sait pas d'où. On attend. Bon, les résidences d'artistes, ça existe. Et puis, moi, ce que j'ai préféré, c'est sa proposition 14, puisqu'évidemment, comme il n'y a pas de hausse de subvention, de crédit, de budget, il va bien falloir la trouver, cette thune. Alors, il a tout plein d'idées, monsieur Fillon, puisqu'il nous parle de financement participatif et de mécénat privé. C'est vrai que c'est très moderne, très contemporain comme idée. Personne n'y avait jamais pensé, hein, des ressources privées. Sont jamais sollicités. On rappellera juste à monsieur Fillon que le mécénat culturel, les entreprises artistiques et culturelles le pratiquent largement, mais que malheureusement depuis 2008, le mécénat culturel est en chute libre. 500 millions d'euros, deux fois moins qu'en 2008. Quant au crowdfunding, ce fameux financement participatif, alors déjà, bon, il y a tout plein d'histoires, hein, derrière qu'on va pas vous raconter ça ici, par respect pour ces artistes qui essayent de survivre. Toujours est-il que ça vous fait pas rentrer des recettes contre ce financement. Bah, vous allez offrir une place.
Ouais, en fait, vous prévendez les choses.
Un DVD, voilà. Tout à fait. Donc ça fait pas de l'argent en plus. Vous avez juste un spectateur, un consommateur qui va placer de l'argent un peu plus tôt. C'est très différent, hein, du principe du mécénat. Et puis évidemment, dans sa proposition 12, il revenait sur les abus dans l'intermittence, parce que forcément c'est très très mal tous ces artistes qui profitent. Alors il s'en prend plutôt aux intermittents de l'audiovisuel. On va pas tout à fait le contredire, il y a quand même un certain nombre de gens qui devraient être en CDI depuis bien 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 longtemps, mais on sent quand même que c'est une manière d'approcher ce système de l'intermittence pour essayer de tailler encore une fois dedans. Et puis moi j'ai noté qu'il voudrait avoir recours au contrat de prestation des indépendants. Donc globalement là il y a plus de salariat, hein. Dans ce petit texte il nous parle de flexibilité et d'avantages fiscaux, les deux termes rapprochés dans le même paragraphe sonnent à mes oreilles comme ça, gling, 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 gling. Ça c'est le libéralisme, hein, de monsieur Fillon. Et puis évidemment, libéral qu'il est, il voit la culture comme un vecteur de développement économique. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois en France qui dépendent de ce secteur culturel. Alors ce qui est drôle c'est qu'il voit la France devenir leader en 3D et en animation. C'est pas vraiment l'art, hein, qui l'intéresse, c'est le potentiel économique derrière ce leadership. Il nous parle aussi dans sa proposition 17 du cinéma, il nous parle de la fiscalité. Vous savez, il y a une guerre des prix permanente entre les États, c'est-à-dire que la France va baisser une taxe, va donner un crédit d'impôt plus important. Et ben la Belgique va répondre en faisant encore un petit peu mieux, hein, avec un petit peu moins de taxes et puis encore des facilités au crédit d'impôt. Donc Fillon nous propose d'élargir ce crédit d'impôt, mais en fait il fait comme les autres, ce que M. Hollande fait aujourd'hui, c'est-à-dire, eh ben, c'est une course permanente au tournage étranger pour les faire venir ici en France, pour évidemment, hein, ça crée de l'emploi, ça crée aussi des pépettes, mais n'empêche que c'est pas nouveau ça aussi, c'est une guerre des prix permanente. Et puis sa proposition 18 va te plaire, puisque pour favoriser la culture en France et pour favoriser l'influence française de cette culture dans le monde, il faut développer le tourisme et que y a une solution super pour développer le tourisme, c'est travailler le dimanche.
Ah bah ouais.
Ah bah oui, il perd pas le nord, hein, c'est un libéral. Voilà. Alors bon, François Fillon, je sais pas s'il a beaucoup de fans dans la culture. En tout cas, il a Renault.
Ah ouais, c'est horrible.
Voilà.
Et c'est marrant pour un catho coincé de proposer le travail le dimanche, c'est un peu incohérent quoi. Comme quoi il est plus libéral que catho.
Écoute, on va lui proposer à monsieur Fillon de se retourner vers le travail d'Ousmane Sow. On a appris que ce grand sculpteur sénégalais était mort aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Vous vous souvenez, hein, de ces statues longilignes et grandes, hein, qui avaient été exposées en 99 au Pont des Arts à Paris. Un grand artiste, et ben voilà, monsieur Fillon allez donc voir.
Voilà, ben on va lui proposer aussi de lire la prochaine BD qu'on va présenter, puisque la bande dessinée est aussi une forme d'art, on le rappelle. Donc on va rester local cette fois-ci avec un artiste local. Il s'agit d'Yvan Brun. C'est tellement local qu'il est allé jusqu'à faire deux logos pour Radio Canu. Hein.
Vous allez ah oui, on aime bien Yvan Brun. Ouais.
Voilà, donc Yvan Brun est de retour. Ça fait longtemps. Le dernier, c'était Warsong. Donc ça datait d'au moins 5-6 ans. Et il nous revient avec une BD assez atypique pour du Yvan Brun.
C'est un très bel ouvrage, hein. Ouais, très bel objet en tout cas.
Très beau, très gros, beau, très épais. Hein, alors je vais redonner, hop, je l'ouvre. 175 pages, c'est quand même pas mal. Grand format. Alors c'est toujours très beau, hein, dans sa manière de dessiner, même si c'est pas tout à fait comme il dessine. Enfin, il a changé quelques petites approches dans son dessin.
Tout à fait.
Mais on retrouve quand même le style d'Yvan Brun. C'est très très beau. Et donc,
de quoi ça parle?
Ah oui, alors du coup, c'est très différent des Yvan Brun, c'est-à-dire que c'est pas un ouvrage totalement politique, hein, parce que d'habitude c'est frontalement politique quand même ce qu'il fait. Là c'est politique mais sournoisement politique. Donc on suit Michel, un jeune fonctionnaire qui bosse à la Sécu, qui pète des câbles, hein, qui vit mal les choses, qui est déprimé et qui va croiser de manière indirecte un ancien mercenaire dans les pays où il y a du trafic de diamants, monsieur Dominguez, et il va le croiser, le mec il va se suicider devant lui en fait en se jetant d'un bel immeuble de la Part-Dieu. Et à partir de ça, il va se passer dans sa tête des choses, qui alors une sorte de dérive hypnotique, dérive fantastique, hein, parce que c'est pas très réaliste. Alors d'abord lui-même, il est dans un monde parallèle puisqu'il se shoote aux côtes du Rhône, mélangé avec des antidépresseurs. Du coup, c'est quand même.
Ouais, il tente la bière aussi, je crois.
Ouais. Donc voilà, et finalement, dans ce livre, on suit le parcours de ce fonctionnaire complètement à la marge, complètement à la masse, qui va suivre les traces de ce mercenaire qui s'est suicidé, et va chercher une sorte de trésor qui va trouver dans les îles, tout au bout de du Confluence, là. Il y a toute une histoire comme ça. Alors ce qui est bizarre, c'est que dans la BD, il arrive à des moments, des passages qui ont lieu en Afrique. Et on se dit, ça arrive au milieu, c'est complètement incohérent. Et en fait, il arrive à mettre en place l'histoire. C'est très très bien construit et finalement, tout est cohérent. C'est assez incroyable. On ne connaissait pas cette force d'adaptation d'un récit, parce que c'est un roman. Au départ.
Oui, de Tristan Perreton.
Voilà, et il arrive à faire ça aussi. Très très bien. Il y a d'ailleurs beaucoup de textes. Hein, on connaît Yvan Brun, il a fait des BD sans texte. Donc là, c'est vraiment incroyable. C'est d'une force folle. Scénaristiquement, c'est très très bien fait. Ouais, voilà, c'est une petite merveille quand même, cette BD. Bon, c'est un peu déprimant, mais bon, pour du Yvan Brun, c'est moins déprimant que d'habitude.
Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne l'aurais pas raconté comme ça. Donc c'est là où je trouve cet ouvrage très beau. C'est que c'est pas que je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu le présentes, mais moi, je voyais plutôt ce Michel. Juste obsédé avec des histoires qui lui tournent dans la tête, et il se monte le bourrichon avec à la fois des actualités, des choses qui croisent, et puis cette peur de ces immeubles, hein, qu'on reconnaît tout de suite à la première vignette, qui sont au Albocuse, comme on dit maintenant, ces mochetés qu'on pourrait dire aussi, et ça les frais. Il y en a qui ont peur du vide, du voilà, et ben lui il a le vertige dans l'autre sens, et moi c'est comme ça que j'ai plutôt appréhendé cet ouvrage. Est-ce que il est en train de péter un câble, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a un très beau dessin, comme tu le disais, il a changé, là il travaille, il raconte donc il a fait ça au stylo bille. Bon, il a été aussi après assisté, hein, sur ordinateur pour d'autres couleurs. C'est un d'ailleurs, on est dans le gris, le marron.
Gris-marron, essentiellement.
C'est plutôt beau, et c'est aussi avec ces couleurs qu'on passe un peu de la situation ici à Lyon, dans cet appartement où franchement on sent aussi il a l'air d'étouffer là-bas dedans. Ah oui. Il faut dire aussi que Michel, il est archiviste, il s'emmerde à la Sécu.
Ouais, c'est ça.
Quand même. Il a pas d'avenir, il fait la même chose, il tamponne.
Après, du coup, lui, il vit la violence de la société actuelle, c'est-à-dire on a des métiers inintéressants, on a des gens qui sont, qui ont plus de vie, hein, puisque lui, il a déjà pas de vie en tant que tel, son travail va pas l'épanouir, voilà, et en plus, bon, il y a le côté politique, puisque du coup, on parle aussi de l'Afrique, du néocolonialisme, ou des traces du colonialisme.
Oui, ou de la décolonisation.
Enfin, voilà, ça, il y a plein de messages finalement dans cette BD.
Oui, oui, on aurait pu aussi dire que c'était les éditions Tanibis qui ont édité l'ouvrage. Yvan Brun a raconté qu'il avait beaucoup de mal
à trouver un éditeur.
Ouais. Un éditeur, il faut dire que Tristan Perreton, à la base, il avait écrit ce roman comme ça.
À compte d'auteur.
À compte d'auteur, ouais. Au début, il a été sorti un petit peu quelques exemplaires, voilà. Et Tristan Perreton et Yvan Brun se connaissaient avant l'écriture du roman. C'est des gens qui viennent du même milieu, la musique.
Des punks, tout ça.
Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, il y a un travail finalement commun aussi. C'est une deuxième vie à ce roman de Tristan Perreton que nous n'avons pas lu et que nous espérons bien pouvoir lire un jour. Moi, je trouve que c'est aussi frappant la beauté de l'architecture qu'Yvan Brun dessine. Il a le trait, on reconnaît tout de suite. Ah là, moi j'ai été frappé.
On reconnaît tout de suite Lyon, il y a plein d'endroits.
Et puis il a ce trait, vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir ces choses qui pourraient me tomber dessus, comme une grande muraille. Ouais, moi je vous conseille vraiment cet ouvrage. Que toi, Laurent, tu m'as fait découvrir, c'est une très belle BD.
Alors, on n'a pas dit le titre, ça s'appelle Prof
Tout à
Fall.
Fait.
En fait, il y a un point après ouais, Prof Fall. Ouais. C'est prof.fall. Donc voilà, aux éditions Tanibis.
Alors, on va poursuivre avec toujours de la culture. Vous avez vu aujourd'hui, hein, oui, je suis très culture. Je vais revenir sur cette affaire Van Gogh. Vous vous souvenez, le 15 novembre dernier, les éditions du Seuil présentent un ouvrage. Vincent Van Gogh, le brouillard d'art, carnet retrouvé, signé de l'experte Bogomila Welf-Ofcharoff, qui reproduit 65 dessins présentés comme inédits et attribués donc à Van Gogh. Selon les éditions du Seuil, je vous rappelle rapidement, le peintre les aurait exécutés durant son séjour à Arles et à Saint-Rémy de Provence. Et je vous rappelle aussi ce qu'on vous avait raconté la dernière fois. Le même jour, le musée Van Gogh d'Amsterdam assurait que les dessins n'étaient que des imitations, des faux. Le musée évoquait le type d'encre qui n'était pas le bon par rapport aux habitudes de Van Gogh, le style, des erreurs topographiques. Scandale là-dessus, les éditions du Seuil communiquent en invitant le musée Van Gogh d'Amsterdam à un grand débat. Mardi, le musée d'Amsterdam a publié un communiqué expliquant décliner la proposition du Seuil.
Ah, ils sont ouverts, dis donc.
En ne voyant pas l'utilité de tenir un débat. Oui, mais tu vas comprendre pourquoi. Hier, ah oui, mais c'est du rebondissement, tout ça, c'est Dallas. Le Seuil communique à son tour avec un beau petit communiqué. Ça commence par les éditions du Seuil ont appris avec stupéfaction. Attention, le monde est en danger. Ils emploient des mots quand même très très forts. Alors bon. Pour faire court, le Seuil accuse le musée Van Gogh de se dérober à la recherche de la vérité et de vouloir déclencher une campagne de dénigrement systématique, la guerre. Hein, je vous le dis, c'est la guerre. Alors évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe encore ? Il faut dire que le musée d'Amsterdam ne lâche pas l'affaire et vient de publier plusieurs nouveaux éléments pour prouver que le carnet de croquis qui accompagne le brouillard qui est accompagné d'un petit carnet de édité par les éditions du Seuil, n'est pas de Van Gogh. Tout ça serait donc du faux. Tout pas vrai. Alors, je vous le disais, donc il y a un petit carnet hein, qui accompagne les dessins. C'est un carnet anonyme qui donne les activités du café de la gare à Arles, où Van Gogh se rendait assez fréquemment. 26 pages subsistent, reproduites par le Seuil, et 4 étaient déjà connues du musée Van Gogh depuis 2012. C'est Frank Bryan, expert qui représente le propriétaire des dessins, qui l'avait fait suivre au musée d'Amsterdam. D'après la lecture des experts du Seuil, de ce petit carnet, les dessins auraient été déposés le 20 mai 1890. Retenez la date. Par un ami du peintre, le docteur Félix Ray, à l'attention de Joseph et Marie Ginoux, les propriétaires du fameux bistrot dont je viens de vous parler. 4 jours plus tôt, Van Gogh était rentré à Paris. Petit problème qui apparaît, c'est que le document semble avoir été modifié d'après les deux conservateurs en chef du musée. Ils expliquent. Nous avons été très surpris de constater que 2 de ces 4 pages sont manquantes dans le fac-similé publié. Elles contiennent en outre une note en date du 19 juin 1890 qui comprend une mention relative à Van Gogh. Le mobilier de son atelier à la Maison Jaune aurait été ce jour-là entreposé au café de la gare. Notre surprise a été grande quand dans ce qui est apparu au Seuil, nous avons trouvé cette même mention, formulée exactement dans les mêmes termes, mais dans une note datée du 10 juin 1890. Nous aimerions beaucoup savoir comment cela est possible et dans quelle mesure ce document est-il fiable si exactement la même déclaration peut être trouvée à 2 dates différentes. Voilà le problème, parce qu'on sait que le docteur Ray ne vivait plus à Arles le 19 juin 1890, il était déjà parti à Montpellier, et donc c'est ces 9 jours d'écart qui créent ce mini-scandale, et cette grosse guerre entre le musée d'Amsterdam et les éditions du Seuil. Alors, du côté du Seuil, on dit que oh, mais c'est un problème d'oubli, un membre de la famille propriétaire du petit facsimilé a malencontreusement égaré une page, mais ça sera cette page sera ajoutée au retirage de l'ouvrage. Sauf que on sait pas bien, est-ce que
ça
c'est
fait louche,
une manipulation? C'est louche hein, quand même tout ça. Rappelons quand même que l'ouvrage est présenté, et je cite, comme la découverte la plus révolutionnaire de toute l'histoire de l'œuvre de Van Gogh, selon Ronald Pickvans, qui est le spécialiste du peintre durant la période provençale, et qui a rédigé la préface de l'ouvrage du Seuil. Faut bien se rendre compte que là, c'est tous les experts qui sont mal, parce qu'il y a une critique scientifique sur la provenance et l'analyse de ces documents. C'est finalement assez grave, parce que c'est un objet aujourd'hui qui est commercialisé et qui est quand même vendu, comme je vous le disais, comme un truc absolument révolutionnaire. Comme quoi, faut peut-être toujours se méfier un petit peu des révolutions.
Ouais. Ah bon.
Celle-là, en art, j'entends. C'est les révolutions artistiques, moi j'y crois pas trop, quoi.
Alors, on va poursuivre avec une petite actualité radioactive. On reparle de Fukushima très brièvement, puisque le coût estimé du démantèlement, des dédommagements des riverains et de la décontamination suite à l'accident nucléaire de Fukushima a explosé, puisque alors ça monte régulièrement, et là la dernière estimation c'est 20 000 milliards de yens, c'est 170 milliards d'euros. Donc voilà le coût qui est estimé aujourd'hui par les experts de l'accident nucléaire. Ouh, ça fait beaucoup quand même. Hein. Alors on sait que Fillon défend le nucléaire corps et âme. On se dit, mais merde, s'il arrive un accident, ça va coûter cher. Savoir que actuellement, TEPCO paye les dédommagements, paye des choses, mais en fait pas avec son argent. Il paye avec l'argent de l'État qui lui prête, mais avec une échéance non définie. Donc ce qui risque d'arriver, c'est que l'État va prêter, va donner quoi à la fin, puisque l'entreprise n'a pas les moyens, de toute façon ils allaient déposer le bilan, hein, donc ils n'ont pas les moyens de payer une catastrophe nucléaire. Et aucune entreprise d'électricité n'a les moyens de payer un accident d'une de ces centrales nucléaires. Hein, c'est pas possible. Et comme elles sont pas assurées, notamment en Europe, hein, puisqu'ils ont une autorisation de ne pas assurer leur outil industriel, c'est la seule industrie hein, qui a cette autorisation-là, eh ben, ce sont les États qui prennent la main derrière. C'est le scandale permanent de l'industrie nucléaire. Alors, toujours dans le nucléaire, la semaine dernière, il y avait la votation suisse dimanche. Moi, j'y ai cru.
T'as été déçu.
Putain, mais c'est quoi ces Suisses là? Il y avait plein de sondages qui disaient que l'initiative qui s'appelle pour la sortie programmée du nucléaire, entre parenthèses sortir du nucléaire, allait passer.
Ouais, mais hein, ça t'apprendra à croire aux sondages.
Ah putain, ça a foiré.
Arrête de dire des gros mots, s'il te plaît.
Pardon. Donc bref, 54,2% ont rejeté. Alors c'est pas de beaucoup, vous allez me dire. 54,2. Bon, mais c'est la majorité quand même. Donc ils ont refusé de sortir du nucléaire. Alors il y a eu une étude un peu sur, mais pourquoi il y a une différence entre les sondages d'avant et ce qui s'est passé le jour du vote. Alors ils ont posé plein de questions et se sont rendu compte que chez les gens qui votent plutôt à gauche, donc les Verts, le socialiste et tout ça, ils ont gardé, ils n'ont pas changé d'avis. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont au centre et à droite, eux, ils ont changé d'avis au cours de la campagne. Et il y a eu une énorme propagande de l'industrie, non pas en disant que le nucléaire c'est dangereux, tout ça, en disant mais économiquement ça va nous coûter cher, il va falloir qu'on importe de l'électricité, etc. Ça a fait peur à tout le monde et ils sont arrivés à faire plier le vote. Donc voilà. Même les chrétiens, il y a un parti chrétien qui s'appelle l'UDF, qui a dit qu'il fallait voter contre la sortie du nucléaire, parce que le nucléaire c'était bien. Voilà. Bon bref, ça reviendra une autre fois. On sait qu'il y a des régions entières hein, qui ont, notamment Genève, hein, qui était contre. De toute façon, Genève est déjà sans nucléaire, parce qu'ils achètent plus d'électricité nucléaire. Enfin voilà, c'est la grosse déception du week-end. Et puis oui, je disais, Fillon et le nucléaire, c'est un grand moment d'amour, puisque il a dans son programme des choses sur l'environnement, alors pas beaucoup de choses non plus hein, parce qu'il est pas très écolo. Alors il est assez incohérent hein, comme le sont souvent les politiques de droite, puisqu'il dit qu'il faut absolument protéger l'environnement et continuer la transition énergétique, mais pour lui la protection de l'environnement c'est défendre le nucléaire. On se dit mince, il y a un truc que je comprends pas. Donc voilà, il veut repousser les centrales nucléaires jusqu'à 60 ans au moins, sauver la centrale de Fessenheim. Par contre, il veut fermer les centrales à charbon. C'est son côté écolo. Je ferme les centrales à charbon. À savoir qu'en France, il n'y en a quasiment pas. Dans les centrales à charbon. Donc, au pire, on a des centrales au gaz, hein, mais on a des turbines au gaz. Mais on n'a pas, presque pas. Et il doit en rester deux qui se courent après, qui seront fermées de toute façon. Donc voilà, c'est le programme de Fillon sur l'environnement, c'est juste une énorme escroquerie. Il nous réexplique d'ailleurs que le nucléaire est une énergie propre. Alors, on rappelle que le nucléaire émet du CO2. Alors, pas au moment de fabriquer l'électricité, mais surtout le processus avant d'extraction, de traitement, et après de séparation des déchets nucléaires. Voilà, donc c'est pas propre. Un atout économique stratégique, quand on voit que Areva a déposé le bilan, et que c'est l'État qui donne de l'argent, et que EDF est incapable d'assumer tous les coûts, et que c'est l'État qui donne de l'argent, ça nous fait bien rire. Et en termes d'indépendance, on rappelle que il n'y a pas une vraie indépendance, puisque l'énergie, l'uranium n'est pas produit en France. Par contre, il y a une indépendance de fait quand même, hein, puisque ce sont des entreprises françaises qui ont acheté les mines. Hein. Donc, avec quelques scandales, hein, comme Uramine, qui était une fausse mine, mais bon, bref. Donc voilà. Et surtout, il veut enlever le principe de précaution de la Constitution. Parce que ça, c'est mal. Hein. Donc voilà. C'est triste, hein. C'est lui qui va peut-être gagner. Donc voilà, c'était pour vous rappeler que M. Fillon était pro-nucléaire. On va faire un petit agenda avant de se quitter.
Oui, on aurait juste pu signaler à ceux et celles qui n'utilisent que leur voiture, vilain et vilaine, qu'il y a une grève dans les
transports en commun,
lyonnais, donc dans les TCL. Les régulateurs sont en grève hein, depuis lundi, ça dure encore demain. Bon, c'est un peu naze, c'est une grève perlée, hein, vous ouais, savez, c'est... un peu le matin, puis un peu le soir, puis un peu au milieu. Moi, je préférais une bonne vieille grève à l'ancienne, s'il vous plaît. Non, c'est vrai.
Oui, non, mais là, c'est...
Moi, je préfère, je vous le dis, moi, je prends les transports en commun, je préfère marcher, je m'organiserai, je vous assure, mais là, c'est tout pourri, quoi. Parce que moi, ça m'empêche pas d'aller travailler, ça me gêne pas dans mon travail. Par contre, faire grève de 5 à 8, où il y a les premiers travailleurs qui partent très très tôt, ça me plaît moins. Je préférerais que ça touche les gens comme moi qui vont bosser à 9h du mat, parce qu'on peut se lever un petit peu plus tôt et se organiser.
Ils gênent les scolaires, ils gênent les travailleurs précaires du matin.
Ouais, mais ça, si tu veux, c'est pas bien grave non plus. Par contre, quand tu commences le matin à 6h30 et que tu prends tes premiers métros, et ben, c'est un peu plus dur de se lever, donc je préférerais qu'on m'embête moi plus tard. Voilà.
Voilà, donc il nous reste une minute avant l'arrivée de l'émission suivante qui va rediffuser en direct l'émission de Radio. Donc un petit agenda, alors on va commencer demain, vendredi 2 décembre à 19h, salle des Ovalistes, 6 impasse Flessel. C'est une soirée autour justement de la grève des Ovalistes, une grève célèbre à Lyon juin-juillet 1869. Donc il y a, ça commence à 19h avec présentation de plein de livres, des gens qui vont venir présenter leurs livres, l'histoire du travail et les luttes des femmes, notamment au 19e siècle, sur le féminisme, c'est autour des femmes hein, les Ovalistes. Voilà, il y a pas mal de choses organisées par le CEDRAT et c'est donc à cette salle des Ovalistes dont j'ai perdu l'adresse, mais ce qui est sur les pentes de Croix, si ça passe Flessel. Ensuite, avant que l'ordinateur soit complètement installé en courant par l'animateur qui s'occupe de la rediffusion, Terre des Livres reçoit la revue Z où ils présentent leur nouveau numéro qui s'appelle Bonne femme, mauvais genre. Du coup, c'est autour des femmes, des questions féministes et c'est tout réalisé à Marseille. Il y a un meeting pour Adama Traoré, hein, ce jeune noir tué par la police à Paris en juillet dernier. C'est à la MJC Jean Massé. Ça sera le 3 décembre cette fois, donc samedi. Samedi, Terre des Livres, c'était aussi samedi 3 décembre à 15h. Là, c'est samedi 3 décembre à 19h15 à la MJC Jean Massé, 38 rue Camille Roy, dans le 7e, autour de donc Adama Traoré, victime vraisemblablement d'une violence policière. Et puis, dernière chose pour ce samedi, c'est plus tard, c'est à 19h, 19h30, à la librairie La Griffe. C'est le CDL, le Centre de Documentation Libertaire, qui projette le film d'Elia Kazan, très connu, un classique, qui s'appelle Viva Zapata, donc sur le Mexique, au début du 20e siècle, voilà pour vendredi et samedi. Camarade, es-tu prêt? Ah non, il me donne une minute.
Alors Laurent, tu n'as plus qu'à chanter pendant une minute.
Mais je me sentais prêt là.
En fait. Ouais. Écoute, un petit Freddie Mercury, la semaine dernière, ouais, tu avais l'air très endiablé.
Ce matin, un lapin voilà. A tué un chasseur. Moi j'aime bien les lapins qui tuent les chasseurs, je ne sais pas pourquoi. Je suis pas contre tuer, je suis pas pour tuer les gens, mais que les lapins se défendent contre les chasseurs, ça serait quand même... plutôt pas mal. Hein. Bon, le camarade cas, est d'accord avec moi.
En tout cas, nous, on se retrouvera toute la semaine prochaine. Hein. C'est pas parce qu'il y a oui. Les illuminations que nous ne serons pas là. Bien évidemment, nous serons là, derrière nos micros.
19h-20h et demain d'ailleurs 19h.
Et je peux déjà vous annoncer que le jeudi 15 décembre j'aurai la joie, le plaisir d'accueillir mon ami Jean-Yves pour te remplacer, mon cher Laurent. Ah. J'aime bien de temps en temps te faire des infidélités. Ouais. C'est dans l'air du temps, les infidélités. Et voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir des amis.
Ah, ça y est, c'est prêt, c'est parti.
Ciao. La télé.
Dans